Si Dieu aujourd'hui parle de la peur, c'est que Dieu sait qu'il y a des événements qui vont arriver, il y a des combats qui arrivent. Mais pour que nous soyons vainqueurs de ces combats, il va falloir que nous ne fuyons pas.
Les obstacles, c'est une force extérieure qui vient s'opposer à vous dans le but de vous empêcher de réaliser votre désir.
Il n'y a pas d'exploit sans guerre. Quand on parle d'exploit, c'est qu'on parle de lutte. C'est qu'on parle d'acharnement, c'est qu'on parle de guerre.
Notez ceci, peu de personnes voient en la défaite un appel urgent à redoubler l'effort. C'est-à-dire, quand vous avez connu la défaite, ne vous dites pas que c'est la fin. La défaite vous lance un message, redouble l'effort.
C'est une année où ce que nous aurons, nous allons l'obtenir au prix de notre victoire.
Enseignement numéro 2.
Alors nous parlerons aujourd'hui des origines de la peur. Ésaïe 8, 11 à 14 dit « Oui, ainsi m'a parlé Yahvé lorsque sa main m'a saisi et qu'il m'a appris à ne pas suivre le chemin de ce peuple en disant « Vous n'appellerez pas complot tout ce que ce peuple appelle complot et vous ne partagerez pas ses craintes et vous n'en serez pas terrifiés. C'est Yahvé Sabaoth que vous proclamerez, saint, et c'est lui qui sera l'objet de votre crainte et de votre terreur. Il sera un sanctuaire, un rocher qui fait tomber, une pierre d'achoppement pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. » Cela est exprimé là dans la version « La Bible de Jérusalem ». Par ce passage, j'aimerais attirer votre attention et vous faire comprendre que Dieu s'adressait à Ésaïe et lui faisait comprendre une chose. Israël avait des difficultés et il tient la main d'Ésaïe et il lui dit « Je ne voudrais pas que tu fasses comme tes frères israélites. Il y a une chose que j'aimerais t'apprendre aujourd'hui. Ne suis pas le chemin qu'ils empruntent. C'est-à-dire, quel est ce chemin? N'appelle pas complot ce que eux, ils appellent complot. Dans une autre version, on dit, n'appelez pas conjuration ce que d'autres appellent conjuration. Vous savez, nous rentrons dans une ère, comme nous l'avons vu, l'année 2009 est une ère d'exploit. Et si nous voulons être capables de réussir, il va falloir que nous fassions comme Ésaïe, nous ne suivons pas la trace des pas des autres. Ici, je ne parle pas uniquement de ceux qui ne sont pas chrétiens, je parle aussi de ceux qui sont chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on est dans la même église, qu'on a des affinités, qu'on se connaît, que forcément il faut que nous passions par le même chemin. Parce que tous, nous avons un destin. Tous, nous avons une vision de notre existence et pour chacun d'entre nous, Dieu a un plan spécifique. Et Dieu dit, pour cette année 2009, je ne voudrais pas que tu agisses comme les autres, qu'ils soient chrétiens ou non, je ne veux pas que ce qu'ils appellent conjuration, toi tu l'appelles conjuration. Ici, l'expression conjuration, elle a remplacé par l'expression complot. C'est-à-dire, je ne voudrais pas que tu ressentes que ce qu'on dit aujourd'hui de négatif, toi aussi tu le prends comme quelque chose de négatif. Même si dans le pays on dit que tout va mal, toi tu ne devrais pas dire tout va mal. Si dans le pays on dit tout est en train de tomber, toi tu ne devrais pas dire que tout est en train de tomber. Et comme on en parle actuellement, même si on parle de la crise financière mondiale, tu ne devrais pas te tenir dans cette position de crise financière mondiale. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas tenir compte de cette réalité, mais ça veut dire que tu ne dois pas marcher en fonction de cette réalité. Il dit, vous n'appellerez pas complot tout ce que ce peuple appelle complot. Et vous ne partagerez pas ses craintes. Et alors, vous ne serez pas terrifiés. Il continue en disant, c'est Yahvé Sabaoth que vous proclamerez saint. Et c'est lui qui sera l'objet de votre crainte et de votre terreur. Ici, terreur n'est pas pris dans le sens que Dieu fait mal ou il ressemble à un diable qui fait peur. Non. Il parle dans le sens que nous devons avoir une sainte révérence vis-à-vis de Dieu et nous devons le craindre en conséquence. S'il y a quelque chose dont nous devrions plutôt avoir peur, c'est de Dieu. Évidemment, parce que les Écritures disent, il vaut mieux avoir peur de celui qui tue l'esprit que celui qui tue le corps. Parce que notre destin dépend de celui qui tue l'esprit. C'est dans ce sens qu'on parle d'avoir une terreur à l'égard de Dieu. Et il dit, parce qu'en fait, il sera un sanctuaire. Et Dieu sera un sanctuaire pour qui? Pour ceux qui le suivront. Et la Bible continue en disant, un rocher qui fait tomber pour ceux qui n'obéiront pas à sa voix. Une pierre d'achoppement, c'est-à-dire un sujet de scandale pour les deux maisons d'Israël. En fait, c'est juste des illustrations, c'est-à-dire pour les chrétiens et pour les sympathisants en Christ. Parce qu'il y a les chrétiens infirmiers et il y a les sympathisants, c'est-à-dire il y a des gens qui aiment écouter la parole, qui apprécient ce qui est dit, ceux qui apprécient l'atmosphère divine, mais qui ne sont pas prêts à s'engager pour Dieu. C'est ce que j'appelle les sympathisants en Christ. Et c'est un peu la symbolique que je donne des deux maisons d'Israël. Il y avait Judas et il y avait le reste. Donc en fait, Judas incarnait un peu ceux qui étaient consacrés et l'autre partie d'Israël incarnait un peu les sympathisants en Christ. Donc, il peut devenir une pierre d'achoppement. Mais tout dépend de l'attitude que nous aurons vis-à-vis de lui. Il peut devenir un filet, comme il peut aussi devenir un piège. Mais tout dépend de la manière dont nous nous tiendrons en 2009 avec Dieu. Soit Dieu sera pour vous un sanctuaire, soit il sera pour vous une pierre d'achoppement. Alléluia. Donc, n'appelons pas conjuration ce que les autres appellent conjuration. Il est temps de se démarquer et de faire la différence. Alors, nous avons appris que la peur est une émotion par rapport à dimanche dernier. Nous avons fait une étude, ou encore une étude nous a été faite sur la peur, et c'est déjà d'ailleurs notre étude mensuelle, où on va régulièrement parler de la peur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous parlerons ce soir des origines de la peur. J'irai lentement, parce que vous savez, c'est un sujet important. Il se peut que je ne termine pas tout ce que j'ai à dire ce soir. Ce n'est pas un problème. Nous allons répercuter ça sur la prochaine rencontre. Mais ce qui est important pour moi, c'est que vous saisissiez bien ce qui se passe concernant la peur. Beaucoup de gens prennent la peur comme quelque chose de léger. Même si nous avons une idée générale de ce qu'est la peur, beaucoup ne réalisent pas à quel point la peur est véritablement pour nous un obstacle. Il y a plein de domaines que nous allons peut-être explorer, si Dieu me le permet, si Dieu me permet de vous enseigner sur les manifestations de la peur. Il y a des choses que nous allons découvrir sur la peur qui semblent si banales, mais qui sont à l'origine de la plupart de nos blocages. Je sais que très souvent, lorsqu'on parle des choses, on voit toujours les grands éléments, mais souvent on oublie les tout petits éléments, les éléments du quotidien. Et c'est là où le diable nous a. Et c'est pourquoi la Bible dit, ce sont les petits renards qui ravagent de grandes vignes. Donc nous avons appris que la peur est une émotion anticipative. Pourquoi anticipative? Parce qu'elle nous informe d'un danger réel. Nous avons aussi vu que c'est un état d'esprit qu'il faut gérer, maîtriser, si nous ne voulons pas voir notre destruction ou si nous ne voulons pas voir notre destinée passer à côté de nos yeux. L'une des choses aussi que j'ai retenues de la peur par rapport à mes recherches, c'est que j'ai compris aussi que la peur est un sentiment d'inquiétude. C'est-à-dire, au-delà du danger qu'elle présente, c'est un sentiment qui nous permet d'exprimer une inquiétude ou de ressentir une inquiétude par rapport, effectivement, toujours au danger. Mais seulement la peur a une source assez particulière qui peut être soit la réalité, soit le monde imaginaire. La peur que nous avons n'est pas toujours réelle. Il y a des choses que l'on peut voir, il y a des choses que l'on peut ressentir parce que les conditions ou les actes que nous posons ou la situation dans laquelle nous nous trouvons nous amènent effectivement à avoir peur. Comme aujourd'hui, depuis hier, il y a eu la conférence sur la crise financière mondiale à l'immeuble à Rambo. Les gens s'asseyent parce qu'ils se disent que face à la crise financière, effectivement, il faut que nous nous préparions au cas où la sous-région est affectée. Donc, les gens ont peur. Et c'est cette peur qui amène les membres du gouvernement et les experts à se réunir à l'immeuble à Rambo pour pouvoir trouver des solutions adéquates à la sous-région. OK? Là, c'est une peur réaliste. On la contrôle, on la maîtrise, on la voit venir. Mais il y a des peurs qui sont imaginaires. C'est-à-dire, l'état de choses fait en sorte que nous-mêmes, nous avons créé une peur. Parce que nous interprétons certains faits qui ne sont pas toujours vrais ou qui ne vont pas toujours nous arriver. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a deux sources, la source réaliste et la source imaginaire. Si vous avez volé et qu'on est en train de faire une enquête pour découvrir quel est le voleur de la banque, forcément vous allez commencer à avoir des crampes d'estomac. Parce que vous vous dites, si les gens là font une très bonne enquête, ils finiront par arriver jusqu'à moi. Alors vous prendrez des dispositions en conséquence. Mais si vous avez, par exemple, menti quelque part et tout, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir forcément des crampes d'estomac. Rien ne prouve que vous avez menti ou que le mensonge que vous avez fait aura une conséquence nocive, même si généralement c'est une conséquence nocive, mais qui ne va peut-être pas vous affecter. Donc, vous allez peut-être, parce que vous savez que vous avez menti, vous allez peut-être dire, bon, il se peut que, mais en fait, rien ne vous arrivera. Donc, il faut faire très attention à la peur, parce que la peur, c'est vrai, d'un côté, c'est une émotion qui nous permet et qui nous signale l'arrivée d'un danger, mais d'un autre côté, c'est une émotion qui peut nous perdre. Nous avons encore une autre facette de la peur. La peur aussi peut être à l'origine de la foi. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Pourquoi elle peut être à l'origine de la foi? Qu'est-ce qu'on entend par instinct de survie? Quand tout va mal, si vous vous retrouvez dans une maison où tout est bouclé et qu'il y a du feu, qu'est-ce qu'il va se développer chez vous? La peur de mourir. Mais cette peur va créer quoi? La foi. Si vous n'étiez pas capable de casser la porte, vous aurez la foi de la casser. Pourquoi? Parce que vous voulez sortir. Si quelqu'un vient et décide d'en finir avec vous et de vous tuer, aussi fréluqué que vous pouvez être et aussi costaud que peut être votre adversaire, vous aurez la foi de le bastonner. Peut-être pas à coup de poing, mais vous savez une chose, qu'il me suffit de tenir un élément qui puisse détruire cette personne. Mais en temps normal, si vous êtes en face de cette personne, vous n'êtes pas capable de le faire. Mais l'issue de la peur sera fonction de notre réaction. Soit elle sera pour nous un signe d'alerte, et on va s'arranger en conséquence, soit elle sera pour nous le début de la foi, c'est-à-dire de développer l'instinct de survie. Vous comprenez? Il est important que nous réalisons aujourd'hui l'importance de la peur. C'est vrai que nous avons vu dimanche dernier la peur sous un aspect beaucoup plus négatif. Mais nous pouvons aussi réaliser aujourd'hui que la peur peut être quelque chose de positif. Parce qu'elle peut développer en nous des instincts que nous n'avions pas auparavant et qui sont nécessaires par rapport à la situation donnée. Seulement la même peur aussi peut nous amener à tricher, à mentir et à tuer. C'est pourquoi je parlais du sentiment d'inquiétude. Mais la source de la peur, c'est aussi émotionnel. Donc, c'est ce que j'appelle un peu le début de notre foi. Il faut, ce soir, réaliser que si je ne gère pas convenablement la peur, soit je réussis, soit je perds. Mais je vous assure que la peur, c'est l'élément le plus difficile à gérer. Le courage, vous pouvez facilement l'avoir. Vous me direz, non, ce n'est pas évident. Je vous dis, vous pouvez facilement avoir du courage. Vous pouvez facilement avoir le dessus sur les larmes. Vous pouvez avoir facilement le dessus sur la colère. Mais la peur, ce n'est pas toujours évident pour chacun d'entre nous. Et c'est l'une des armes que le diable utilise le plus souvent pour nous détruire. La peur bouleverse, modifie et influence nos comportements, soit en nous obligeant à fuir, soit en nous paralysant. La peur est un sentiment destructeur que nous devons chasser de notre vie. Deutéronome 31:6 dit « Fortifiez-vous et ayez du courage ». Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Lorsque vous allez lire la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez vous rendre compte que d'une manière ou d'une autre, Dieu a toujours exprimé un fait à ses enfants. N'ayez pas peur. Que ce soit les patriarches, ou que ce soit les apôtres, ou nous aujourd'hui, il y a toujours une chose qui ressort de notre communion avec Dieu et que Dieu ne cessera jamais de répéter, c'est « n'ayez pas peur, n'ayez crainte ». Et vous savez, selon les recherches que j'ai faites, j'ai découvert que le terme hébraïque qui est utilisé pour crainte veut dire en français aujourd'hui « prendre la fuite ». Lorsque la Bible nous dit « n'ayez crainte », toutes les fois où vous verrez dans la Bible « n'ayez crainte », sachez que c'est toutes les fois où Dieu te dit « ne fuis pas ». Chaque fois que Dieu te dit « n'aie pas peur », pour Dieu, la traduction littérale de peur, ça veut dire « fuir ». Donc lorsqu'on parle de peur, ça veut dire forcément que les gens ont un problème de fuite. Si Dieu aujourd'hui parle de la peur, c'est que Dieu sait qu'il y a des événements qui vont arriver, il y a des combats qui arrivent, mais pour que nous soyons vainqueurs de ces combats, il va falloir que nous ne fuyons pas. Si Dieu commence l'année en parlant de la peur, c'est que Dieu sait que nous allons être confrontés à des difficultés telles que seuls ceux qui les confrontera, réussiront. Donc, ne vous limitez pas à ces belles paroles de 2009 disant « c'est l'année des exploits ». Je vous dis, il n'y a pas d'exploit sans guerre. Quand on parle d'exploit, c'est qu'on parle de lutte. C'est qu'on parle d'acharnement, c'est qu'on parle de guerre. Et donc, quand on dit l'année 2009 est une année d'exploit, c'est une année de guerre. C'est une année où ce que nous aurons, nous allons l'obtenir au prix de notre victoire. Cela ne sera pas donné. Ne vous faites pas d'illusions. Et comme Dieu sait que cela ne nous sera pas donné, à l'exemple d'Israël, il exerce nos bras au combat. Et dans le premier élément qu'il fait ressortir en ce début d'année, il dit, n'ayez pas peur. Ne faites pas comme les autres. N'ayez pas peur. Si tout le monde dit c'est patatras, vous vous dites c'est en haut. Parlons des origines de la peur, parce que le tout n'est pas de savoir que la peur est une émotion, la peur est un état d'esprit, mais il faut savoir d'où vient la peur. Parce que la meilleure façon de résoudre le problème de la peur, c'est de trouver l'origine de la peur. J'ai appris une chose. Si vous voulez aider quelqu'un qui a peur, découvrez quelle est la cause de la peur. Parce que la cause d'une peur est généralement la solution à la peur. Si vous avez peur de l'eau, c'est que c'est l'eau qui va résoudre votre problème. Si vous avez peur du feu, ce n'est pas autre chose. Au-delà de la proclamation de la parole, au-delà de la prière et du jeûne, au-delà de la lecture de la parole, au-delà de la foi, au-delà de toutes les promesses, si vous avez peur de l'eau, il faut que vous vous confrontiez à l'eau. Si c'est l'eau votre peur, alors c'est l'eau la résolution de votre problème. Ne vous cachez pas derrière tout ce qui est prière. C'est vrai, il y a la prière. Imaginez quelqu'un qui a peur de l'eau, qui ne sait pas nager. Comment vous allez l'amener à ne pas avoir peur de l'eau? C'est un brillant. Vous êtes sûr que vous allez prier, jeûner, faire tout ce que vous voulez, la personne n'aura pas peur de l'eau. Mais la seule façon d'amener cette personne à ne pas avoir peur de l'eau, mais jetez-la dans l'eau. C'est pourquoi je vous dis, si vous voulez vous en sortir par rapport à vos peurs, il faut que vous connaissiez l'origine de vos peurs. Parce que ce qui est à la base de votre peur est en fait la solution de votre peur. Si nous voulons comprendre quelle est l'origine de la peur, il faut que nous sachions que la peur n'a que deux origines principales, l'environnement et le péché. Deux. Évidemment, dans ces deux, il y a beaucoup d'autres éléments qui ressortent, mais il n'y a que deux éléments qui entraînent la peur. L'environnement. Et quand je parle de l'environnement, je parle de l'environnement familial. Je parle de l'environnement amical, nos amis. Éducationnel, c'est-à-dire les endroits où nous apprenons, que ce soit des écoles, des collèges, des centres professionnels et autres, les endroits où nous travaillons, l'église à laquelle nous appartenons, ou la congrégation, et ensuite, enfin, le milieu économique dans lequel nous vivons. Voilà les éléments qui sont généralement à l'origine de la peur. Et ensuite, nous avons le péché. Alors, parlons de l'environnement. Il va falloir que nous comprenions une chose. Pour que naisse le courage, il va falloir que nous comprenions d'où vient notre peur. Alléluia. Et pour cela, il va falloir que nous comprenions que tout commence depuis le sein de notre mère. Toutes les peurs que nous éprouvons en tant qu'adultes sont généralement apprises au fur et à mesure que nous grandissons. Ces peurs proviennent principalement des critiques, des avertissements, qui sont souvent destructeurs venant de la part de nos parents, même si lorsqu'ils nous le disent, ils n'ont pas l'intention de nous détruire. Par exemple, je vous prends le cas d'un enfant, curieux, qui passe son temps à vouloir faire des expériences. Lorsque cet enfant fait des expériences et des expériences mauvaises, qu'est-ce qui se passe en général? On le gronde. On le ramène à la raison. Mais la manière dont nous le ramenons à la raison, si elle est mal faite, peut amener cet enfant à développer des peurs. Si elle est bien faite, cet enfant va grandir et aura un équilibre sain. C'est pourquoi je disais que c'est l'environnement, premièrement, qui est à l'origine de toutes les peurs que nous pouvons avoir. Si vous avez grandi dans un environnement trop dur, vous allez développer un type de peur. Vous avez grandi dans un environnement trop laxiste, vous allez développer aussi un autre type de peur. Si c'est un environnement trop laxiste, vous aurez peur de la responsabilité. Parce que dans l'environnement laxiste, on vous permet tout. Donc le jour où on vous dit, soyez des personnes responsables, vous trouvez que c'est difficile. Et c'est le cas de certains chrétiens aujourd'hui. Quand on parle de développer le sens de la responsabilité, ils préfèrent quitter l'église et aller dans un endroit où on ne leur parle pas du sens de la responsabilité. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est l'environnement dans lequel ils ont évolué qui est à l'origine de cette situation. Si vous avez vécu dans un environnement où on exige que école, école, école égale réussite, école égale réussite, école égale réussite, s'il vous arrive de ne pas persévérer dans les études, vous allez tout de suite et automatiquement vous prendre pour un moins que rien. Donc vous allez réduire ou détruire votre estime de soi. Et lorsqu'on viendra vous dire que Jésus est capable de changer votre vie, que vous n'êtes plus le même parce que vous avez accepté le Seigneur, jamais, je vous dis, en dehors d'une intervention divine et une persévérance de votre part, jamais vous n'allez accepter ce que Christ a fait sur la croix pour vous. Si vous avez des amis ivrognes, vous devenez ivrognes. La Bible dit quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et alors quand vous deviendrez grand et que vous vous mariez ou que en grandissant, votre mère ou votre père puisse vous dire « ne bois pas », qu'est-ce que vous allez voir en la personne qui va vous dire « ne bois pas » Même si ce qu'elle dit est vrai, vous allez voir en cette personne un ennemi. Et donc, au lieu de vous corriger, vous allez développer deux choses. Soit vous allez vous rétracter, soit vous allez devenir violent. Mais cette violence ou cette mise en coquille développe une peur. Je ne veux pas qu'on me crie dessus. Je ne veux pas qu'on me parle de ça. Et quand on vous dira, venez, on peut prier pour vous, parce qu'il faut que vous soyez libérés de l'alcool, pour certains, vous n'allez pas venir. Parce que vous ne pouvez pas vivre sans alcool. Le vide que vous preniez à boire avec les potes, comment allez-vous le remplacer? Si vous n'êtes pas fort de caractère, vous allez retourner et boire. Mais si vous êtes fort de caractère, vous saurez remplacer ces moments par des temps de prière, de méditation ou pour une occupation particulière. Si vous avez vécu dans un environnement tellement luxueux, il vous sera peut-être difficile de savoir faire la cuisine et de tenir un balai. Et quand on vous dira balai, tu diras non, je ne peux pas balayer. Il se prend pour qui? Il me prend pour qui? C'est toi qui es dans la faute. Parce qu'il n'est pas dit que parce que tu as vécu dans un environnement luxueux, qu'il est dit que tu ne dois pas savoir balayer. Tu ne connais pas ton destin. Et alors, si c'est une femme, elle aura du mal à se marier à un pauvre. Mais qui sait si c'est ce pauvre qui comblera son cœur? Et voilà comment, pour avoir vécu dans un environnement luxueux, nous avons développé la crainte de la propreté. L'environnement, quel qu'il soit, est à l'origine de nos peurs. Toutes les craintes que nous développons, toutes les peurs que nous développons, sont les conséquences de notre marche quotidienne, de l'enfance à l'âge adulte. J'expliquais à quelqu'un tout à l'heure qu'il y a un exemple que je n'ai pas noté dans mon étude, mais je voulais vous parler d'un exemple particulier. Regardez les bébés quand ils naissent. Il y a deux choses particulières que les bébés craignent. C'est la peur de tomber, d'être lâché, de ne pas être aimé, et puis la peur des bruits qui sont perçants. Voilà les choses qui font peur à un bébé. Tant que l'enfant est dans un environnement gai, se sent en sécurité, personne n'est là pour le faire tomber, il est tranquille. Mais remarquez et imaginez que cet enfant vive dans un endroit où il y a tout le temps du bruit. Cet enfant, en grandissant, aura peur du bruit. Parce que le bruit l'aura traumatisé. Mais quand vous allez crier sur cet enfant, s'il développe la violence pour exprimer la crainte qu'il a du bruit et qu'il vous boxe en tant que mère ou père, vous allez dire, il est mauvais, on a mangé l'enfant. Mais ce que vous ignorez, c'est que c'est depuis le berceau que vous avez cultivé cette crainte dans sa vie. Et que le caractère violent que cet enfant manifeste, c'est vous-même à cause du bruit. Vous voyez pourquoi je dis cherchons. C'est-à-dire, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, quand on va parler des problèmes de peur, vous allez vous rendre compte que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne découvrez pas la source de votre peur, vous ne vous en sortirez jamais. Parce que la solution à votre peur se trouve justement dans votre peur. L'environnement. L'environnement. Attention à nos amis. Attention à nos familles. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque nous acceptons le Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que cette parole, nous la prenions comme nôtre. Ça veut dire qu'à partir du moment où nous acceptons le Seigneur, on ne doit plus être capable de dire « j'apprécie mon ancienne vie », mais on doit travailler à se débarrasser de ce qu'il y a de négatif de notre ancienne vie. Parce que l'environnement dans lequel nous avons évolué a un impact dans notre vie, même un impact que nous ne pouvons peut-être pas voir, mais que nous verrons au fil du temps. Quand nous nous trouverons face à un combat particulier, nous allons nous rendre compte que nous développons une peur, une crainte que nous ne connaissons pas de nous. Et alors à ce moment précis, quand on est face à la parole, on refuse ce qui nous est dit. Parce qu'on se dit, la personne se trompe. Si une prophétie vient et dit, tu es méchant, vous allez dire, le prophète ment. Mais il se peut que le prophète ne ment pas. Cette partie méchante de votre personne, vous ne l'avez pas encore découverte, mais donnez-vous quelque temps. Mettez une situation devant vous. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'au-delà de votre spiritualité, vous avez un côté méchant. Donc, lorsqu'on parle de sanctification, de méditation de la parole, ce n'est pas par hasard. Ne vous dites jamais, j'ai déjà tout dépassé. C'est faux. Dieu ne peut pas tout enlever d'un coup. Dieu enlèvera au fur et à mesure, en fonction de notre maturité, de notre capacité à comprendre et notre capacité à accepter ce qu'il nous révèle. Aujourd'hui, si Dieu dit tu es mauvaise, il ne te l'aurait pas dit à ta conversion parce qu'il sait qu'il te l'aurait dit, tu aurais chuté. Maintenant, il est capable de te le dire parce qu'il sait que tu as la maturité nécessaire pour comprendre ce qu'il entend par mauvaise ou méchante. Maintenant, méchante ici ne veut pas dire ce qu'il y a de pire. Mais méchante, ça peut être par rapport à une situation ou à un commandement de Dieu, une situation particulière, une attitude qui fait de toi une personne méchante par rapport à ce projet, mais pas de façon générale. Alléluia. Faisons attention. La peur, l'environnement est à l'origine de la plupart des peurs que nous avons. Oh, j'ai peur de l'inceste. Parce que dans l'environnement dans lequel tu as vécu, il y a un problème d'inceste. Tu as peur de la sorcellerie. Vérifie l'endroit où tu vis. Tu as peur des chats. Que t'a-t-on dit sur les chats? Vous riez, mais c'est des vérités. Allons un peu au village et regardons vos attitudes. Or, quand on est au village, quand on est dans la nuit, on ne regarde pas le miroir parce qu'on va faire revenir les morts. Combien croient en cette histoire? Et beaucoup sont bloqués à cause de ça. Est-ce que c'est faux? Mais c'est qui vous influence? C'est votre environnement culturel? C'est votre environnement traditionnel? On m'a dit chez les Bapounous, quand une femme perd son mari, elle doit pleurer si c'est un mois ou je ne sais pas trop quoi, et puis elle doit remplir un seau, je ne sais pas trop. Bon, je ne sais pas si c'est des histoires vraies ou fausses, mais imaginez. Et voilà quelqu'un qui ne sait pas pleurer comme tout le monde pleure. On va dire elle est méchante, elle va se faire bastonner, elle va se faire désapprécier pour une affaire de l'environnement. Qu'est-ce qui prouve qu'en remplissant un seau de larmes, tu aimais vraiment ton mari? Vous savez qu'on peut être des sketchers. Ne rions pas, regardons un peu les séries brésiliennes. Vous voyez comment ils sketchent? On peut des sketchers. Une femme, quand elle veut quelque chose, mais mon Dieu, elle va jouer. Elle va utiliser tous les artifices. Hein. Quitte à jeter le corps par terre, vous allez dire, oui, là, elle pleure. Oh, mon Dieu, elle sketch. Vous allez voir un homme quand il veut une femme, mais mon Dieu, il est l'homme le plus doux, c'est un sketcher. Attendez-le après le mariage et vous découvrirez s'il est vraiment doux ou pas doux. Pourquoi? Parce que l'environnement, le système dans lequel on évolue dit que si tu veux avoir une femme et tu veux la draguer, sois l'homme le plus doux et offre-lui tout ce que tu veux. Et quand on est dans la maison, chérie, tu m'as même plus au restaurant. Ah ben tiens, ça c'est avant. Mais non, ce n'est pas une affaire d'avant. Donc, c'était du baratin. Et après, cette femme, par exemple, se séparera de ce jeune homme et que quelqu'un d'autre viendra lui dire, je veux te ramener au restaurant. Elle peut développer une peur par rapport à cela. Elle peut dire, lui aussi commence avec le restaurant, il risque de terminer comme l'autre, donc ce n'est pas l'homme de ma vie. Et elle peut, à cause de ça, passer à côté. C'est comme certains hommes. À cause d'une déception d'une femme, toutes les femmes sont pareilles. Qui vous a dit ça? À chaque homme, sa femme, à chaque femme, son homme. Faisons confiance à Dieu. L'environnement. Attention à notre environnement, nos familles. Il n'est pas riche, tu ne peux pas l'épouser. Ah bon, t'as dit que c'est un riche qui comble le cœur. C'est le cœur qui comble le cœur. C'est le cœur qui comble le cœur. Mais s'il y a eu des trahisons, la peur naît. Je ne peux pas épouser une femme qui est comme ça parce que les trois autres que j'ai eues lui ressemblaient. Donc là, je ne vois pas clair. Et tu oublies même que Dieu peut dire que la personne se convertit et qu'elle peut changer. Donc tu ne crois même plus à cause de l'environnement, à cause du système dans lequel on évolue, à cause de la culture et de la tradition. Si cette femme ne peut pas faire d'enfant, il ne faut pas l'épouser, il faut aller prendre une femme de chez toi. Maintenant on abandonne la pauvre fille. Mais quand tu l'as épousée sur quelle base? Des enfants ou de l'amour? Point d'interrogation. Mais c'est pourquoi beaucoup de femmes qui se sentent déjà stériles n'osent pas se marier. Elles ne croient plus au bonheur conjugal parce qu'elles savent que la culture va dire qu'elle doit partir. Et à cause de ça, même quand la parole de Dieu dit « Je peux te rendre féconde », tu vas dire « Amen » par mouvement d'émotion, mais dans le fond, éternel et vivant. C'est même toi qu'on m'a encore retrouvé chez le fétiche en train de faire les mains. Malgré ton amène, attention à l'environnement. Et nous allons voir deux exemples qui lui sont semblables dans la Bible. Nous allons voir le premier exemple, celui de 1 Samuel 17, que nous connaissons tous, David et Goliath. Et nous allons voir celui de Juges 7 avec Gédéon. Alors, c'est une histoire que nous connaissons tous, mais je vais la prendre à partir du verset 13. La Bible dit, les trois fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier né de ces trois fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shammah. Verset 14, 1 Samuel 17, 13 à 15. Verset 14, David était le plus jeune et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. La suite se trouve au verset 21. La Bible dit, Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Dans une autre version, on dit « ils étaient terrorisés et s'enfuirent ». Une autre dit « ils avaient tellement peur qu'ils s'enfuirent ». Chacun disait « avez-vous vu s'avancer cet homme ?» C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Le combat avait déjà commencé depuis 40 jours, c'est-à-dire un mois et 10 jours. Mais ils avaient toujours peur. À cette époque précise, il y avait trois critères de base pour faire partie de l'armée d'Israël. On devait être robuste, fort. On devait avoir l'âge de la maturité, 30 ans. Et on devait être parmi les aînés pour représenter le clan, la famille. Vous savez que Israël était divisé en différents clans. Et il fallait que chaque clan soit représenté. Parce que pour eux, la représentation de l'ensemble d'Israël donnait la force et le courage. Donc ça incarnait un seul homme qui pouvait vaincre. Et toute l'armée d'Israël était constituée des hommes ayant respecté les trois critères. Donc si on se base sur cela, on va se rendre compte qu'Israël était une armée très forte. Ce n'était pas des moindres qui étaient là. C'était des gens très forts parce que le critère de sélection était difficile, était rigoureux. C'est pourquoi David avait été renvoyé pour aller garder les brebis. C'est pourquoi même à la suite, au verset 28 et 29, lorsque David dit « Que va-t-on donner à celui qui va vaincre Goliath ?» et que les autres lui répondent « Il sera le gendre du roi, le roi lui donnera de la richesse et tout. » Son frère Eliab, au verset 28, lui dit « Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi ne gardes-tu pas les brebis de notre père ?» Parce que pour Eliab, c'était un affront qu'un enfant de 17 ans vienne se pointer sur le terrain de guerre et qu'ils viennent poser une telle question, c'était un affront. Non seulement en tant que responsable d'un clan, représentant d'un clan, mais en plus cela voulait dire qu'un qui était là n'était pas fort. Il dit non, 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 là ça va. Ils étaient humiliés. C'est pourquoi il dit tu es orgueilleux. Et David dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que ce que j'ai dit est mauvais? Non, ce que David disait n'était pas mauvais. Mais il y avait un problème. Israël avait peur de Goliath. Vous savez, j'ai découvert que ce n'était pas tellement l'armure de Goliath qui impressionnait Israël. Même si ça avait sa part. Ce n'était pas tant la stature de Goliath. Ce qui était le problème dans cette situation, c'est qu'Israël ignorait quelle était la puissance de son Dieu. Les peurs qui arrivent à nous vaincre, ce sont les pères dans lesquels nous n'introduisons pas Dieu. Et alors, quand on lit cette histoire, on se rend compte que l'une des raisons qui a fait en sorte que 40 jours durant, Israël soit assis et fuit devant Goliath, c'est parce qu'ils souffraient d'une certaine ignorance. Ils ignoraient jusqu'où était capable d'aller leur Dieu. L'ignorance est à l'origine. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne pouvez pas l'aimer, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas l'apprécier à sa juste valeur. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'en fait, l'amour parfait bannit la crainte. Donc, il est nécessaire pour ceux qui sont appelés à se marier de connaître parfaitement leur partenaire pour qu'il n'y ait pas une atmosphère de crainte où chacun vit de son côté, chacun a peur de l'un et de l'autre. Alléluia! Le même principe se vérifie pour nous aussi qui sommes chrétiens, simplement, ou qui sommes célibataires, ou même en dehors de notre statut social, simplement le fait que nous soyons chrétiens. Il faut que nous apprenions à connaître Dieu pour être capables de lui laisser la place qui lui est due. Si nous échouons et si nos peurs sont encore pour nous des sources de blocage, c'est parce que nous ignorons jusqu'où Dieu est capable d'aller. Si nous pouvons pleurer pour un emploi, c'est que nous ne savons pas jusqu'où Dieu est capable d'aller. Si nous pouvons pleurer pour une maison, et là quand je parle de pleurer, ce n'est pas pleurer dans le sens de dire « Ah, vraiment Seigneur, tu connais la vérité, je veux que… » Mais pleurer dans le sens que, au lieu de se battre pour acquérir, on passe son temps à se lamenter. Ici je parle des lamentations. Si aujourd'hui on a un problème de solitude, on ne peut pas se marier, qu'on passe notre temps à se lamenter, c'est qu'on ne sait pas ce que Dieu est capable de faire. Et cette ignorance-là va maintenir la peur dans notre cœur. Et nous serons toujours vaincus. Donc lorsqu'on parle de l'environnement, il faut que vous sachiez que dans l'environnement, il y a encore un petit élément, l'ignorance. Tant que vous ne savez pas pourquoi on vous demande de ne pas faire, en général vous refusez de faire. Pourquoi? Parce que vous ignorez le devant. Mais quand vous connaissez, rien ne vous empêche de vous engager. Qu'est-ce qui vous amène à venir à l'église? C'est parce que vous savez ce que vous allez voir devant. Mais ceux qui aujourd'hui répugnent l'Église, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a devant. Si aujourd'hui vous pouvez être capable de dire « je crois à la fécondité », c'est parce que vous avez vu et vous avez goûté Dieu. Ce qui faisait la différence entre Eliab et David, ou encore l'armée d'Israël et David, c'est que David avait expérimenté Dieu. Donc David connaissait de quoi était capable Dieu. Parce que même lorsqu'il fait le récit et dit, je ne craindrai pas au roi, parce que lorsque le lion voulait manger mes brebis, j'ai dû me battre avec le lion, j'ai dû me battre avec l'ours. Vous pensez qu'à 17 ans, regardez la stature d'un ours quand il est sur ses deux pieds, vous pensez que David n'avait pas eu peur? C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que ça veut dire que c'était un homme extraordinaire. Non! Justement, il n'était pas extraordinaire. Il a appris à dépendre de Dieu. Quand il a vu l'ours, il a eu peur. Peut-être même que la Bible ne nous dit pas qu'il a d'abord fui. Il a peut-être fui pour aller prier quelque part dans le buisson en disant « Oh Dieu, regarde !» Mais quand il a regardé au sens de la responsabilité, les brebis de mon père, si on les mange tous, on ne mangera plus. À un moment donné, il s'est ressaisi et il a dit « Il faut que je l'affronte. Quitte à mourir pour affronter, au moins mon père dira « Je ne suis pas mort lâche. » Parce que quand on voit dans la Bible comme ça, tout de suite vous pensez que non. Dès qu'il a vu le lion, alléluia, c'est faux. Il a eu peur, mais il a dû faire quelque chose qui ne nous est pas dit dans les Écritures, qui l'a amené à braver le lion et l'ours. Et comme il avait fait cette expérience, il savait de quoi Dieu était capable. Qu'un garçon de 17 ans pouvait vaincre un ours de combien de tonnes? Même l'homme le plus costaud ne peut pas affronter un ours. Quand vous le regardez comme ça, vous dites, oh Dieu. Et puis un lion, quand il a faim. Parce qu'on ne dit pas si le lion avait faim ou pas. Et la preuve, c'est vrai qu'il avait faim parce qu'il venait pour chercher les brebis. Vous êtes déjà tombé en face d'un fauve qui a faim. Même si quoi. Même moi qui ai la foi, je ne m'hasarderai pas à affronter un lion. Je ne mens pas, je ne peux pas affronter un lion. Ça commence par où? Je ne peux pas. Il ne faut pas s'amuser. Dites-moi d'affronter, je ne sais pas de quoi. À la rigueur, un chat et même un chien. Beaucoup d'entre nous, on a peur du chien. Quand on... Quelle que soit la taille, en bas, à plus forte raison, un lion, qui a faim. Non, soyons sérieux, parce qu'on a tendance à rêver. Mais David avait eu peur. Mais David a sûrement développé quelque chose qui l'a amené à affronter. Comme je l'ai dit, c'est juste des suppositions. Il a dû se dire, il vaut mieux pas perdre les brebis. Alors il a affronté, il a dû dire, Dieu, advienne qu'on pourra, on y va. Et dans sa lutte avec l'ours et le lion, il a vu comment Dieu a étendu sa main. Et cette expérience a suffi pour dire que, quelle que soit la dimension que peut avoir Goliath, parce que je crois que Goliath était plus grand que l'ours et plus grand que le lion. Il a dû dire, moi je viens avec la force que l'Éternel m'a donnée. Mais d'où vient cette révélation? De l'expérience qu'il a faite. Donc il faut que nous fassions attention. C'est là la différence qui existait entre David et toute l'armée d'Israël. David savait jusqu'où Dieu pouvait aller. Israël ignorait la puissance de son Dieu. Nos peurs peuvent avoir pour origine l'ignorance. Ce même exemple, nous le trouvons aussi dans Juges, histoire de Gédéon. Juges 7, 2 à 7. Et la Bible déclare en fait que quand Gédéon rassemblait les hommes qui étaient avec lui, l'armée d'Israël était constituée de 10 000 hommes de pied. Quand quand Dieu s'adresse à Gédéon, il lui dit une chose. Verset 2. Le Seigneur dit à Gédéon, ta troupe est trop nombreuse pour que je te livre Madian. Israël pourrait s'inventer à mes dépens et dire, c'est ma propre force qui m'a sauvé. Maintenant, proclame ceci en présence de la troupe. Je te prie que celui qui a peur et tremble reparte. Qu'il s'en aille de la région montagneuse de Galaad. 22 000 hommes. Il y avait même plus. 22 000 hommes parmi la troupe repartirent. Il en restait 10 000. Donc, imaginez, s'il en restait 10 000, c'est qu'il y avait en fait 32 000 hommes. Verset 4 dit, le Seigneur dit à Gédéon, la troupe est encore nombreuse. Quelle illogique. Selon la norme, l'environnement actuel, le système actuel du monde, il dit, plus il y a d'hommes, on est sûr de réussir. Plus il y a de militaires, plus on est sûr de gagner la guerre. Et Dieu dit à Gédéon, moins il y aura de militaires dans cette affaire, plus tu es sûr de gagner la guerre. Quelle pensée illogique. 32 000 hommes. Il dit, ils sont trop nombreux. Tu ne gagneras pas la bataille. Et il commence un tri et il dit, il dit que ceux qui ont peur partent. Dans une autre version, on dit que ceux qui sont fiancés retournent retrouver leur fiancé. Ceux qui viennent d'acheter un champ et qui ne l'ont pas exploité retournent l'exploiter. Et vous voyez qu'avec seulement ces trois éléments, 22 000 personnes sont parties. 22 000. Imaginez. Pourquoi? Parce que la norme, le système, l'environnement dans lequel on vit, dit, tu ne peux pas aller en guerre quand tu viens de te marier. Il faut d'abord jouir de ta femme. Parce que si la personne va comme ça, le cœur sera partagé. Et si le cœur est partagé, vous ne pouvez pas attendre quelque chose de sérieux de cette personne. Quelqu'un qui vient d'acquérir un objet n'acceptera pas de se séparer de l'objet qu'il vient d'acquérir. Donc son cœur ne sera pas à la guerre, son cœur sera sur le champ qu'il a acquis. Donc vous comprenez que Dieu sait que la victoire ne s'acquiert pas par le nombre. La victoire s'acquiert par la stratégie et par lui. Il voulait faire comprendre à Gédéon que si le système, l'environnement culturel, traditionnel, religieux dans lequel tu te trouves dit qu'il faut plus d'hommes pour gagner la guerre, moi je te dis qu'il faut plus de stratégie et de moi pour gagner la guerre. Mais très souvent, lorsque nous nous retrouvons face à des situations et que Dieu dise, ce n'est pas en faisant ça que tu réussiras, mais sans t'asseyant que tu réussiras. Combien d'entre nous, nous nous disons que Dieu se trompe? Il y a des fois où Dieu dit, dors. Toi, tu dis, je ne peux pas dormir. Comment Dieu peut me dire de dormir alors qu'il voit mon problème? Et Dieu te dit, dors. À l'exemple de Gédéon, Gédéon, 22 000 hommes ne peuvent pas. C'est trop. Et après, il lui dit, descends vers le fleuve. Et il dit, de là encore, je vais trier. Et sur les 10 000 hommes qui sont restés, 300, je n'ai pas dit 300 000, j'ai dit 300 seulement sont restés. Où étaient les 900, les 9700 autres? Où étaient-ils? Pourquoi devaient-ils partir? Parce que Dieu aussi avait compris une chose. Quand il y a parmi vous des peureux, faites attention, parce que les peureux affecte toujours les plus courageux. On ne travaille pas avec les peureux. C'est pourquoi Dieu vous dit, en ce début d'année, traitez avec la peur. Vous ne pouvez pas être un homme d'exploit si vous êtes peureux. Vous ne pouvez pas être un homme à responsabilité si vous êtes peureux. Parce que la peur vous amènera à refuser vos responsabilités, à les fuir. C'est pourquoi on peut rencontrer des hommes qui peuvent quitter le domicile familial. On peut voir des femmes qui quittent le domicile familial, sachant qu'il y a des enfants, mais on quitte le domicile familial. On peut voir des gens qui ont des enfants, mais qui ne pensent qu'à leur ventre, qu'à leur corps. Entre-temps, ils ont mis au monde des personnes qui n'ont jamais demandé à venir au monde, mais qui sont quand même là. Ils refusent tout ça parce qu'ils sont peureux. Remarquez que même aujourd'hui, beaucoup ne se marient pas. Et quand vous leur dites, pourquoi vous ne vous mariez pas? Ils vous diront, non, je vais vivre. Ils vous trouveront des excuses extraordinaires. Mais en fait, ces excuses extraordinaires cachent quoi? La peur d'assumer des responsabilités. La peur d'être papa. La peur d'être chef. Parce qu'en général, ils savent ce que veut dire être chef. Alors Dieu dit, la bataille pour la gagner. Il faut faire partir les peureux. Et ceux dont le cœur est attaché aux choses de ce monde. Parce que la peur aussi L'environnement peut nous amener à aimer le matérialisme plus que Dieu. Et donc, notre amour pour le matériel nous amènera à ignorer la capacité d'action de Dieu. C'est pourquoi pour beaucoup de chrétiens, les maisons, les biens sociaux, les aides sociales sont devenus un objectif alors qu'elles devraient être une conséquence. L'environnement. Attention. L'environnement. Au verset 7 de Juges 7, le Seigneur dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai. C'est par eux que je livrerai Madian. Que tout le reste de la troupe s'en aille chez soi. Vous avez vu à quel point la peur peut disloquer toute une armée. Mais pourtant, si on se réfère aux critères que nous avons vus par rapport à l'histoire de David, il y avait des hommes forts. Physiquement, ils étaient forts, mais moralement, ils ne l'étaient pas. Et un homme fort, ce n'est pas qu'un homme physique. C'est d'abord un homme moralement fort. Parce que le physique va suivre. Même si tu es fatigué comme quoi, si dans ton moral, tu dis « je me lève », peu importe ce que je ressens dans mon corps, vous allez vous lever. Parce que le moral est fort. C'est pourquoi la Bible, en fait, nous fait comprendre que si ton moral est bas, ben, la mort te suivra. Il faut que nous le comprenions. C'est pourquoi la Bible s'exprime en disant, Proverbe 21, 31, elle dit, « Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais c'est à l'Éternel qu'appartient le salut. » Dans une autre version, on dit, « Mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. » La peur. Nous nous arrêterons là qu'à l'environnement seulement. La prochaine fois, nous verrons la suite. La peur. Et la chose que j'aimerais vous dire, la peur provient de quelque chose. Ou encore, la peur peut provenir de quelque chose que vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas toujours capable de déceler ce qui est à l'origine de votre peur. Et généralement, l'ignorance est un élément que l'on ne décèle pas vite. En général, on ne le voit pas. Comme ça peut être une influence. L'influence ne se voit pas. L'influence se ressent. L'influence se vit, mais elle ne se voit pas. Il y a des choses dans notre peur que nous ne voyons pas, mais que nous pouvons ressentir. Et ça peut être à l'origine d'une peur.
Pour la suite de votre étude, veuillez insérer le CD numéro 4. En espérant que ce message vous a été en bénédiction, nous vous encourageons à vous procurer le catalogue de nos productions audiovisuelles au numéro suivant 00 241 07 29 68 47 et au 00 241 07 39 82 79 ou à l'adresse email suivante missionjcr@yahoo.fr. Merci et que Dieu vous bénisse.